René Pujol, Au temps des brumes. Chapitre 12, où l'on se retrouve face à face. Jacques, pendant que Patureau broyait des aliments en quantité anormale, ne s'engourdit pas dans l'impression de sécurité qui les réjouissait tous. Cette impression de sécurité était trompeuse. Il savait que le docteur et Dominique chercheraient patiemment, méthodiquement, infatigablement, et qu'ils finiraient par découvrir le refuge de la colonie. Alors, ce serait le siège, ce serait l'assaut. Ces gens qui luttaient pour la conservation de leur existence n'admettaient aucune tractation, aucune entente. Vaincre ou mourir, telle était leur devise. Il importait donc de s'organiser au mieux. Les vivres étaient toujours abondants. La provision d'eau était complète. Sous ce rapport, on n'avait donc aucune inquiétude, et c'était beaucoup. Jacques déplorait toujours la confiscation de son Browning, mais il leur restait encore deux armes à feu et des munitions pour le fusil en quantité suffisante. Juliette apprit au jeune homme qu'elle avait coupé l'électricité dans toutes les galeries et qu'elle n'avait laissé la lumière que dans la caverne. « Ils ont un phare, » dit Patureau. « Je sais bien, » répondit Juliette. « Mais leur provision de carbure de calcium ou d'acétylène dissous ne durera pas éternellement. L'obscurité les gêne, c'est sûr. » Mais, reprit Jacques, j'ai tendance à croire qu'ils nous trouveront assez promptement, car ils sont tous deux intelligents. Comme ils nous ont capturés à la source, ils en déduiront que nous campons près de cette source. Cela restreint le champ de leurs investigations. Eh bien, nous en découdrons, fit le colosse. Cette éventualité ne séduisait que lui, et M. Tubaz ne cacha point l'horreur qu'il en éprouvait. Juliette eut l'idée de revêtir extérieurement la porte d'un réseau de fils de fer électrisés. Cette protection n'était pas très efficace car le courant n'était pas assez fort pour tuer ceux qui toucheraient au fil nu. Mais le contact était assez désagréable pour gêner leurs agresseurs. Jacques découpa dans le bois une sorte de meurtrière permettant de voir et de tirer. Cette étroite ouverture fut obstruée par un bouchon qu'on ne pouvait enlever que de l'intérieur. Il suffit ensuite de consolider la fermeture au moyen de quelques poutrelles supplémentaires. Ces travaux terminés, la caverne était à peu près inexpugnable. Plusieurs heures s'écoulèrent dans le calme et le désœuvrement. Ils n'osaient plus faire fonctionner leur appareil de TSF, de crainte d'être entendu du dehors. Cette attente était si énervante que Jacques éprouva une espèce de soulagement quand ils discernèrent un bruit de voix dans la galerie. « Les voilà !» chuchota M. Tubaz, dont le visage prit une teinte terreuse. « Les voilà !» murmura à son tour Patureau, avec une lueur de joie féroce. Ils entendirent la voix de Dominique. « Tiens, une porte que je n'ai jamais remarquée. Ils sont peut-être derrière. »« Penses-tu ?» riposta Gaston incrédule. « Pourquoi pas ? C'est trop près de l'entrée. »« Et puis, il n'y a aucune lumière là-dedans. » »« On peut toujours se rendre compte. » Après quelques secondes de silence, Dominier poussa un cri de douleur qui amena un large sourire sur les lèvres de Patureau. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda Gaston d'une voix inquiète. « Il y a que je viens de m'électrocuter. » « En touchant du bois, tu rêves, Dominier. » « Ce n'est pas du bois que j'ai touché. C'est un de ces fils de fer. » « Ah, ça !» C'est bizarre. Un temps s'écoula. Les deux hommes devaient examiner le réseau protecteur installé par Juliette. « Ils vont tirer à travers la porte, » souffla soudain M. Tubaz. « Ne craignez pas cela, » répondit Jacques. « Le panneau est trop épais pour que les balles le traversent. Actuellement, nous ne risquons absolument rien. » « C'est palpitant, » déclara Madame Gorgette, qui avait un fond romantique et qui adorait le cinéma. Dehors, le docteur conclut. « Ils sont là. » « Alors, » conclut Domini, « nous les tenons. » « Pas encore, » ricana Patureau. Domini proféra distinctement. « Messieurs, nous savons que vous êtes derrière cette porte. Voulez-vous parlementer ?» Jacques estima inutile de se taire plus longtemps. « Oui, » dit-il. « À la bonne heure, » reprit Domini. « Vous êtes pris comme des renards dans leur terrier. » « Vous faites erreur, » répondit Jacques. « Notre situation est préférable à la vôtre. »« Vous ne sortirez plus sans notre assentiment. » Nous n'avons pas le moindre désir de sortir. Nous avons de quoi boire et de quoi manger pour longtemps. Vous vous lasserez avant nous. Les deux assiégeants durent se concerter, puis le docteur reprit. Au lieu de nous faire ainsi la guerre, pourquoi ne pas nous réconcilier? Nous ne demandons que cela, fit Jacques. Mais Patureau brandit les poings avec véhémence. « C'est un menteur. Ne traitez pas avec ce traître. » Jacques mit un doigt sur ses lèvres et indiqua qu'il n'était nullement disposé à se laisser berner. « Eh bien, dit Gaston, nous renonçons volontiers au système de la violence. Ouvrez la porte. »« Quelle garantie nous donnez-vous ? » demanda Jacques. Notre parole d'honneur. C'est évidemment quelque chose, répliqua Jacques. Mais vous m'avez déclaré vous-même que dans les circonstances actuelles, tout était subordonné aux nécessités vitales. Alors, se résigna le docteur, dictez vous-même vos conditions, nous y souscrivons à l'avance. Voilà, dit Jacques. Vous allez vous placer côte à côte devant la porte, de l'autre côté de la galerie. Vous déposerez vos revolvers à vos pieds. Et comme vous pourriez en avoir plusieurs chacun, vous tiendrez les mains en l'air jusqu'à ce que l'un de nous vous ait fouillé. Naturellement, défense de bouger sous peine de recevoir une balle dans la poitrine. La confiance règne, railla Domini. Nous prenons exemple sur vous-même. Souvenez-vous du traitement ignominieux que vous nous avez fait subir. Chacun son tour, ponctua le colosse. Je les ficellerai moi-même, n'est-ce pas, monsieur Jacques ? La voix du docteur leur parvint de nouveau. Si nous acceptons vos conditions, comment le saurez-vous ? C'est mon affaire, répliqua Jacques. Soyez persuadés que j'ai des moyens de contrôle. « Eh bien, nous attendons votre bon vouloir. »« Vous êtes prêts et désarmés ?»«
Nous sommes prêts et désarmés. »«
Un instant, s'il vous plaît. » Jacques fit signe à Juliette d'éteindre l'électricité, puis il ôta sans bruit le bouchon de la meurtrière. Il se félicita d'avoir pris cette précaution, car il n'aperçut aucune lumière dans la galerie. Les deux assiégeants avaient éteint leur phare pour savoir où était la brèche de la porte, c'est-à-dire le point faible. Il y avait en effet plusieurs séparations au ventail et rien ne révélait l'existence de la meurtrière. « Messieurs, dit Jacques sans indignation, vous vous conduisez une fois de plus comme des bandits. Vous n'obtiendrez plus aucune réponse de nous. » Et il referma promptement, se doutant que Domini allait démasquer son phare pour essayer de repérer l'emplacement du trou.
Je vous avais prévenu, s'indigna Patureau. Il n'y a rien à faire avec ces canailles.
C'est vrai, répondit Juliette, mais M. Jacques a bien agi. Nous avons fait preuve d'humanité. Nous n'avons rien à nous reprocher.
On ne les entend plus, dit Madame Gorgette. Que peuvent-ils manigancer?
Dans la galerie, c'était maintenant le silence absolu.
Restons sur nos gardes, recommanda le prudent Monsieur Tubaz.
Ne pas sortir, telle était la simple consigne, et nul n'avait envie de l'enfreindre.
Un long moment plus tard, Goliath donna des signes d'inquiétude que rien ne laissait justifier. Il humait l'air, allait flairer le bas de la porte et ne restait pas une seconde en place.
« Le chien nous signale quelque chose, » dit Madame Gorgette. « Mais qui sait quoi ?»
Goliath jappa, revenant avec insistance à la porte, comme pour indiquer que le danger était là et qu'il ne fallait pas le négliger. L'intelligent animal frémissait et hérissait son poil, mais nul ne pouvait le comprendre. Tout à coup, Jacques entendit un pétillement caractéristique. « Le feu !» s'exclama-t-il. Le docteur et Dominique avaient silencieusement allumé un bûcher derrière la porte, et les membres de la petite colonie allaient être enfermés dans la caverne.
« Les lâches ! Les lâches !» cria Patureau. « Je veux les réduire en bouillie. »
Une colère froide, implacable, s'empara de Jacques. Sans donner à ses compagnons le temps de comprendre ce qu'il allait faire, il happa le fusil, déboucha la meurtrière, visa brièvement à travers le rideau de fumée rougeoyante et tira deux fois. Un cri terrible retentit, le cri d'un homme blessé à mort. Puis plus rien. Puis un appel tragique.
« Dominique, réponds-moi, Dominique. »
Patureau céda à une impulsion terrible. « Il n'en reste qu'un. Je l'aurai. » Il fit sauter les barricades de la porte, s'élança dans la galerie en faisant jaillir une gerbe d'étincelles. Madame Gorgette versa aussitôt un seau d'eau sur le bûcher qui s'éteignit. Un corps gisait à terre, celui de Dominique, tué d'une balle en plein cœur.
C'était le moins méchant, dit Jacques avec regret.
Gaston s'était enfui avec le phare, abandonnant le cadavre de son ami.
Il nous échappe, s'écria Patureau.
Oh, mais il est blessé, on peut le suivre à la trace. Et il désignait sur le sol crayeux de la carrière des gouttes de sang. Chapitre 13. Où renaît un semblant de calme. Patureau brûlait du désir de s'élancer sur les traces du fugitif et ses énormes mains se crispaient avec une joie anticipée. « Je vais l'étrangler, » déclara-t-il d'un air féroce. Jacques, quoique dépourvu de méchanceté, comprenait aisément cette haine. Mais Juliette retint le colosse.
« Ne cédez pas à ce mouvement de colère, » dit-elle.
« Mais vous ne savez pas ce qu'il m'a fait, et surtout ce qu'il voulait me faire, » protesta Patureau. « C'est un miracle si je suis encore vivant. »«
Vous l'êtes, c'est le principal, » reprit la jeune fille, « et nous avons la victoire. »«
Pas complète, » riposta Patureau. Il serait navrant de l'attrister par un accident, dit à son tour Madame Fargeau. Quand le fugitif se verra prêt d'être rejoint, il n'hésitera pas à vous tirer dessus.
Il me manquera, affirma Patureau.
Mieux vaut ne pas risquer cette chance. Restez avec nous et réjouissons-nous ensemble de l'heureuse fin de ce triste épisode.
Pendant cette discussion, Jacques, domptant sa répugnance naturelle, avait fouillé le cadavre. Son butin
se composait d'un Browning, de quatre chargeurs garnis de balles, d'un briquet à essence et de sa propre lampe électrique qu'il récupéra avec satisfaction. M. Tupaz, dont la modestie ressemblait de plus en plus à de l'orgueil, réclama le briquet pour lui, en souvenir de l'aventure. Jacques le lui donna bien volontiers, et, ayant récupéré la caverne, ils firent un excellent repas, plus copieux que d'habitude. « Quand on n'a pas de soucis, on n'a plus d'appétit, » dit Paturon, en engloutissant sa troisième tranche de jambon. « Je mange mieux que d'habitude. »
Le ciel nous préserve que cela dure, répliqua Madame Gorgette. Sinon, nous n'aurons bientôt plus rien à nous mettre sous la dent.
Vous n'êtes pas un homme, vous êtes un gouffre.
Ils rirent de bon cœur, pour la première fois depuis longtemps. Tout le monde était content, y compris les animaux. Le perroquet caquetait, le chat gavé ronronnait, et si Goliath montrait moins de vanité ostentatoire que M. Tubaz, il mangeait presque autant que le déménageur.
Jacques s'efforçait à se mettre à l'unisson, du moins en apparence. Mais, hanté par ce qu'il savait, il avait l'impression que sa vue n'était plus normale et que d'inquiétantes girandoles dansaient parfois devant ses yeux. Juliette, plus attentive et plus sensible que ses compagnons, ne tarda pas à s'apercevoir de la préoccupation du jeune homme sans en deviner le motif. Profitant d'une dissertation de Madame Gorgette sur la meilleure façon d'accommoder le jambon, elle demanda à Jacques « Qu'avez-vous? Pourquoi êtes-vous triste ?»«
Moi, sursauta Jacques, je n'ai rien et je ne suis pas triste. » Mais elle ne fut nullement convaincue.
« C'est mal de me cacher quelque chose, » insista-t-elle. « Redoutez-vous un nouveau danger ?»
Il se décida à avouer.
« Oui, mais nous ne pouvons lutter contre lui. »«
Quel est ce danger ?»«
Approchez-vous un peu, car je ne veux pas que nos amis m'entendent. Cela les bouleverserait trop. »
Et Jacques raconta ce qu'il savait, en répétant de son mieux ce qu'on lui avait révélé.
Juliette l'écouta jusqu'au bout, son joli visage impassible.
« Vous avez raison, » reprit-elle avec un regard inquiet vers sa mère. « Nous ne sommes pas de taille à lutter. »
« Alors, votre conclusion, » murmura Jacques.
« Vous la connaissez, » répondit simplement la jeune fille.
« Vous l'avez formulée vous-même ?»
« Nous devenons aveugles !» s'exclama Jacques.
Ce dernier mot frappa M. Tubaz.
« Aveugle, » dit-il. « Pourquoi parlez-vous d'aveugle ?»«
Nous pensons à ceux qui sont dehors, dans le brouillard, » expliqua aussitôt Juliette, sans perdre son sang-froid. Et les deux jeunes gens se mêlèrent à la conversation générale. Soudain, Paturo s'arrêta net de mastiquer son gros morceau de fromage.
« Et le troisième ? » fit-il en se redressant à demi.
« Quel troisième ? » demanda la concierge.
« Le blessé, celui qu'ils appelaient Pierre. »
Jusque-là, Jacques n'y avait pas songé. Mais dès que ces mots furent prononcés, il sentit qu'il lui serait désormais impossible d'oublier l'homme gisant sur la pierre froide, tout seul dans les ténèbres.
« Il faut aller le chercher, » dit-il.
Le déménageur s'insurgea.
« Ah non,
il fait partie de la bande, tant pis pour lui. »«
Ce pauvre diable ne nous a fait aucun mal. » »«
Parce qu'il était hors d'état de le faire, mais qui se ressemble s'assemble. »
Cela ne modifia pas l'intention de Jacques. « Je ne puis supporter qu'il va agoniser des jours et des jours, sans même une goutte d'eau pour humecter ses lèvres. Si vous décidez tous de l'abandonner, je m'inclinerai. Mais je vous pose nettement la question. Notre devoir est-il de le laisser mourir ? »
Non, répondit Madame Fargeau, au nom de tous. Nous éprouverions trop de remords. Le jeune homme conclut. Alors, allons le chercher. Le moindre retard supplémentaire pourrait lui être fatal. En route, Pâtureau. Pâtureau se leva, sans cacher sa maussaderie. Si j'avais su, marmottait-il, j'aurais tenu ma langue. Mon bon Pâtureau, dit Juliette, ne vous faites pas plus méchant que vous n'êtes. Je ne suis pas méchant, déclara le colosse, mais si je retourne là-bas avec Monsieur Jacques, c'est plutôt dans l'espoir de retrouver celui qui m'a glissé dans les doigts. Monsieur Tubaz, en veine d'héroïsme, proposa de se joindre à l'expédition. Mais comme son ton n'était pas très enthousiaste, on lui fit aisément comprendre qu'il devait rester avec les femmes, et il n'insista pas. 5 minutes suffirent à Juliette pour rétablir le courant électrique dans les galeries. Et les deux hommes partirent aussitôt. Les gouttes de sang, quoique desséchées, formaient sur le sol des petites taches noirâtres parfaitement visibles. Elles disparurent à une bifurcation. « Ah ah !» observa Jacques. « Notre blessé n'est pas allé rejoindre son ami Pierre. Il a préféré se cacher tout seul. »« Ça ne m'étonne pas, » dit Pâtureau. « À lascar de cette espèce, est incapable d'éprouver un sentiment humain. » Quelques instants après, ils parvinrent au carrefour. Le blessé, pâle et d'une maigreur squelettique, était assis contre la muraille. Dès le premier regard, Jacques comprit qu'il n'avait plus le délire. « Bonjour, messieurs, » salua le dénommé Pierre d'une voix faible. « Je ne sais qui vous êtes, mais votre arrivée m'est infiniment agréable. J'ai bien cru que je mourrais seul dans cette tombe. Quand j'ai vu reparaître la lumière, je n'en croyais pas mes yeux. Nous venons vous chercher, annonça Jacques. Vous étiez donc au courant de ma présence? Parbleu, fit Pâtureau avec un ricanement. Ah, ce sont mes camarades qui vous ont prévenu. Non, répondit Jacques. De vos camarades, l'un est mort et l'autre est en fuite. Ce n'est donc pas à eux que vous devez notre secours. C'est un simple souci d'humanité. Il tendit une bouteille au blessé, dont le masque émacié traduisait une stupeur sincère. Buvez d'abord ceci pour vous réconforter. C'est de l'alcool étendu d'eau. Pierre colla avidement ses lèvres au goulot et ne rendit le flacon que lorsqu'il fut vide. « C'est la vie que vous me redonnez !» s'exclama-t-il. « Maintenant, messieurs, je vous écoute, car j'ai hâte de comprendre ce qui s'est passé pendant ma crise de fièvre. » Sans charger Dominique et le docteur, mais sans estomper non plus leurs responsabilités, Jacques fit le récit des événements antérieurs. Quand il eut terminé, Pierre lui parut sincèrement très frappé, très affecté. Les Latins avaient raison, fit le blessé. Dans certaines circonstances, l'homme est un loup pour l'homme. À la clarté du soleil, je vous assure que la mentalité de mes camarades n'avait rien de commun avec celle que vous venez de me révéler. Je regrette d'avoir sombré dans le délire, car j'aurais peut-être pu les ramener à la raison. Et ils seraient encore vivants, conclut Pâtureau. Vous croyez par conséquent que le fugitif aussi est mort? Jacques, pour éviter de répondre à cette question, parla du retour à la caverne. Pierre étant incapable de faire un pas, il fallut le porter. Pâtureau s'en chargea, et l'ayant prise à bras le corps comme un enfant, se mit en marche sans se soucier de son fardeau. De son bras valide, Pierre se soutenait au cou du colosse. Sa fracture était en bonne voie de guérison, mais il ne pouvait encore se servir de sa main. Dans cet équipage, ils parvinrent au refuge, où le reste de la colonie les attendait avec anxiété. ce fut un soulagement ineffable quand les aboiements de Goliath annoncèrent le retour des explorateurs. Pierre fut étonné de trouver tant de monde, mais il fit bonne contenance. Tous le regardaient avec une curiosité bien excusable, et Jacques comprit avec satisfaction qu'au premier examen, son protégé n'était antipathique à personne. Chapitre 14. Comment on se défend contre la nature? Pierre Sartoni n'était pas depuis 2 heures dans la caverne qu'il avait acquis droit de cité et que chacun le considérait comme faisant définitivement partie de la colonie. C'était un garçon courtois, d'une éducation au-dessus de la moyenne et d'un caractère extrêmement enjoué. Il plut à Madame Fargeau et à Juliette par la reconnaissance dépourvue d'affectation qu'il vouait à Jacques. Il vanta la force de M. Patureau, l'intelligence et la finesse de M. Tubaz, et séduisit la concierge propriétaire en témoignant de l'amitié à ses animaux favoris. « Si j'avais eu mon libre arbitre, dit-il, j'aurais sûrement empêché Gaston et Dominique de faire ce qu'ils ont fait. L'un est mort, paix à ses cendres. Mais qui sait ce qu'est devenu l'autre ?»« Peu nous importe, fit Patureau, dont la rancune était la plus tenace. »« Vous n'êtes pas si cruel, reprit Pierre. Il est blessé, il agonise peut-être. Je vous en supplie, faites pour lui ce que vous avez fait pour moi. » « Pardonnez à ce pauvre fou, je me charge de le ramener à la raison. » Il revint plusieurs fois sur le même sujet, toujours avec la même conviction touchante, si bien que Patureau proposa lui-même. « Si on allait le chercher ?» Nul ne s'insurgea contre cette offre, et Jacques organisa une nouvelle expédition avec le colosse auquel tint à se joindre M. Tubaz. Pendant ce temps, nous travaillerons, dit alors Juliette en désignant un gros rouleau de fil de fer galvanisé. Qu'allez-vous faire? Demanda Jacques, surpris. Encore des barricades? Non, non, sourit la jeune fille. Je vous montrerai cela à votre retour. Quand ils partirent, les femmes n'éprouvèrent pas la même appréhension que la première fois. Malgré sa faiblesse, Pierre était pour tous un véritable appui, quelque chose comme un gage de sécurité. À une cinquantaine de mètres de la caverne, Patureau parla. « Je veux bien être gentil pour le docteur, mais à la moindre velléité de méchanceté. » Il n'acheva pas sa phrase et se contenta de montrer ses mains puissantes. « S'il le faut, je vous aiderai, » approuva le petit rentier. Ils étaient arrivés à l'oreille de la galerie où avait bifurqué le blessé. Elle était obscure et il y régnait le même silence que dans le reste du vaste souterrain. Jacques avait emporté sa lampe et des bougies, mais il n'en eut pas besoin. Il y avait une installation électrique dans ce boyau et il suffit de tourner un commutateur pour faire de la lumière. Les lampes accrochées à la voûte était espacée d'une cinquantaine de mètres, mais elle suffisait pour épargner les surprises. « Si nous appelions, » proposa M. Tubaz, dont les paupières papillotaient. Et Patureau cria d'une voix de stentor. « Ne craignez rien, nous ne vous voulons aucun mal, nous venons en amis. » Maintenant, continuons à avancer, » fit Jacques lorsque l'écho eut fini de vibrer. Il prit la tête et, comme par hasard, M. Tubaz ferma la marche. Le sol était moins consistant et moins égal que dans l'allée centrale. Ils trébuchèrent à plusieurs reprises contre des monticules d'une matière noirâtre, fongueuse, qui répandait une odeur ammoniacale. « On dirait du fumier !» s'exclama le colosse. « Mais oui, c'est du fumier, » approuva Jacques. Le vieux petit rentier s'étonna. Il y avait donc une écurie par là ?
Je ne crois pas, répondit le jeune homme.
Alors, pourquoi du fumier ? Il n'y a pas ici de culture nécessitant de l'engrais.
Une champignonnière existait sans doute dans ces parages.
C'est dans les carrières désaffectées qu'on élève le champignon de couche ou champignon de Paris.
On le sème ou on le plante ? Demanda Patureau.
Ni l'un ni l'autre. On installe du terreau et du fumier animal. Sur ce fumier s'étalent des traînées blanchâtres. C'est le mycélium qui donne les champignons. Le système de reproduction des cryptogames est spécial. Des lamelles qui se trouvent sous les chapeaux tombent des corpuscules sphériques qui, sous certaines conditions de chaleur et d'humidité, produisent d'autres champignons. L'essentiel est donc de se procurer le premier mycélium. Après, la multiplication de la récolte est assurée. Il suffit de maintenir le degré de chaleur propice.
Mais comment maintient-on cette chaleur ?
Il contournait à ce moment une sorte de cuve en fer, tout rouillée, qui contenait encore des débris de coque et des scories.
Quand il fait froid, expliqua Jacques, on allume des braseros semblables à celui-ci. Mais on n'en a pas souvent besoin, car la température ne varie pas beaucoup sous terre.
Monsieur Dubaz crispa la main sur l'épaule de Jacques.
« Attention, soufflait-il, notre homme est là. »
Jacques aperçut à peu de distance une masse sombre au milieu du boyau.
« Nous arrivons trop tard, » murmura-t-il.
En effet, le blessé était venu mourir là. Il gisait la face contre le sol et l'état de ses vêtements, la propreté de ses mains nullement souillées de terre, permettait de supposer que son agonie avait été brève. Le phare éteint était à côté de lui. La balle de Browning l'avait atteint au-dessus du flanc droit et avait sans doute traversé le foie. Les trois hommes auraient bien voulu creuser une sépulture au cadavre, mais ils n'avaient ni pelle ni pioche, et force leur fut de l'abandonner dans la position où ils l'avaient trouvé. Toutefois, ils le fouillèrent et débarrassèrent le corps d'un Browning, de trois chargeurs et d'une montre. M. Dubaz parut très désappointé de ne pas découvrir autre chose. Il se disposait à s'en retourner, leur funèbre mission accomplie, en emportant le phare à acétylène, quand Jacques distingua presque à ses pieds des rondelles blanches.
Des champignons, fit-il.
Il y en avait encore une certaine quantité. Quelques-uns, trop vieux, n'étaient plus comestibles. Mais d'autres étaient d'apparence succulente. Ils les cueillirent précieusement, heureux de varier ainsi leur ordinaire.
« Ne sont-ils pas vénéneux ? » s'inquiéta M. Dubaz. « Ne risquons-nous pas de nous empoisonner ?»
Jacques le rassura et Patureau ajouta « Si vous avez peur, je mangerai votre part. » Ayant regagné la caverne, ils racontèrent ce qu'ils venaient de voir. Pierre Sartini fut le seul à être vraiment peiné, car malgré leurs bons sentiments, les autres membres de la colonie n'oubliaient pas l'agression injustifiée dont ils avaient failli être les victimes. Madame Gorgette reçut avec joie les champignons, déclara qu'ils étaient de toute première qualité et promit d'en faire un bon petit plat fin.
Monsieur Dubaz semblait tellement désappointé qu'on l'interrogea sur son humeur.
Eh bien, voilà, dit-il après quelques réticences. J'avais la certitude de retrouver le trésor. Or, il n'y avait rien dans les poches du demi-nier du docteur.
Patureau éclata de rire.
Ah, c'est pour cela que vous teniez tant à nous accompagner. Vous aviez peur que nous escamotions le magot.
Non, non, se défendit le petit rentier. Mais il me tardait de mettre la main sur l'argent. Nous l'aurions partagé, nous aurions été riches en sortant d'ici.
De quel argent parlez-vous ? Demanda Pierre, qui écoutait avec une mine surprise.
De la fortune de vos anciens compagnons.
Et Jacques relata les premières propositions de Dominique et son offre somptuaire.
Mais il mentait, s'écria Pierre. Nous n'avions presque rien sur nous. Ce que vous avez pris pour des billets de banque n'était que des papiers sans valeur. Nous n'avons pu rejoindre le survivant des voleurs, et c'est lui qui a emporté tout le paquet.
Ainsi, continua le colosse, ce n'était qu'une traîtrise de plus.
Mais oui, un bluff pour vous tenter.
Décidément, glapit M. Tubaz, très affecté par cette déception, ces canailles méritaient 10 fois la mort. Et il se plongea dans une amère rêverie, car il avait déjà projeté, dans l'espoir de devenir millionnaire, de fouiller toutes les galeries de la carrière. Il fut d'ailleurs le seul à songer avec regret à cette fortune inexistante. Ses compagnons n'y arrêtèrent pas leur esprit une minute. Déjà, l'exquise odeur des champignons en train de rissoler sur le fourneau emplissait la caverne.
« Et votre travail ?» demanda Jacques à Juliette en constatant la disparition du rouleau de fil de fer.
« Levez la tête, répondit la jeune fille. » Jacques remarqua, accroché à 50 cm du plafond, un large réseau à mailles carrées. À chaque angle était fixé comme un minuscule paratonnerre, et plusieurs fils descendaient le long des parois, jusque dans la terre où ils s'enfonçaient.
« Quel est cet appareil ?» dit Jacques.
J'essaye de nous protéger en utilisant les courants telluriques, expliqua Juliette.
Oh, cette protection est sans doute illusoire, mais pourquoi ne pas la tenter?
Je ne comprends pas, avoua Jacques.
Personne ne comprend encore très bien. On se borne à enregistrer quelques curieux effets.
De mystérieux échanges électriques s'accomplissent jour et nuit, sans relâche, dans tout l'univers. Il y a certainement des raisons à ces perpétuels mouvements fluidiques, mais nous les ignorons. On a constaté de façon irréfutable qu'un appareil comme celui-ci, installé dans un champ de culture, permet d'obtenir des céréales beaucoup plus belles.
Sans machines électriques ?
Sans rien. La plus formidable machine électrique, c'est notre planète. Elle se défend à sa façon et j'ai une certaine confiance en...
Sur ce, d'un coup, la lumière s'éteignit.
Chapitre 15. Le triomphe des ténèbres sur le monde.
Au point où en était la société civilisée, la suppression de la lumière électrique n'était qu'un incident de plus, un incident insignifiant si on le comparait à bien d'autres. Ceux qui pouvaient être vraiment affectés étaient ceux, très rares, qui avaient réussi à sauvegarder jusque-là la limpidité de l'atmosphère où ils vivaient. Les membres de la petite colonie de la carrière était de ce nombre. Ils ne croient pas à une panne passagère puisqu'ils savaient par la TSF que le courant allait être prochainement coupé. Ils possédaient une certaine quantité de combustible, de l'essence pour les lampes, des bougies et même encore un peu d'acétylène dissous. Mais ils en verraient vite la fin. Après, ce serait l'obscurité éternelle. Jacques réfléchissait tristement à cela, pendant que Madame Gorgette allumait une bougie.
La concierge propriétaire n'était pas si pessimiste. Il lui semblait qu'elle avait de quoi s'éclairer pendant des mois, sinon indéfiniment.
Murmura Paturo, quand la petite flamme jaune brilla. « Ça ne vaut pas l'électricité. »«
Nous nous y habituerons, » dit Madame Fargeau, fervente apôtre de la résignation.
« Par force, » soupira Monsieur Tubaz. « Mais convenez que c'est assez lugubre. Nous nous voyons à peine. »
Jacques pensa que ce serait encore plus lugubre quand il ne se verrait plus du tout. Mais à cause du brouillard, bien des humains ne connaîtraient pas leur misère physique, leur cécité incurable. La monstrueuse nature les ménageait, tout en les frappant cruellement. Pierre rompit le lourd silence, accablant ses compagnons. « Réjouissons-nous au lieu de nous plaindre, dit-il. Il y en a de bien plus malheureux que nous. »«
Oh, pour ça, oui, » répondit Madame Gorgette, avec un égoïsme satisfait.
Oui, il y en avait de plus malheureux à la surface du globe. Les bulletins officiels, transmis deux fois par jour par TSF, étaient d'affreux communiqués de misère dont l'audition serrait le cœur. L'humanité, longue à se remettre de l'abominable surprise, cherchait toujours à s'organiser et n'y parvenait point. L'obscurité avait réussi, mieux que n'importe quelle révolution, la désagrégation totale qui laissait tout le monde impuissant. Tous les peuples ont eu, au cours de leur histoire, des arrêts et même des reculs. Les invasions ou les guerres civiles ont marqué certaines faillites du progrès. Mais même dans le chaos le plus sanglant, il se trouve toujours des hommes qui émergent, qui ont assez de puissance pour rassembler autour d'eux les énergies défaillantes et qui rebâtissent sur les ruines. Cette fois, sous le manteau du brouillard, nul n'émergeait. Il y avait bien des essais constructifs, mais aucun plan d'ensemble. Les événements dépassaient les hommes. Il n'était plus question de rivalité de peuple à peuple. La trêve des nationalismes était un fait acquis. Les ténèbres avaient supprimé les frontières. Londres, Berlin, Paris, Rome communiquaient régulièrement dans un même et unique souci de conservation vitale. On avait peu de nouvelles de la péninsule ibérique, isolée par la chaîne des Pyrénées. Quant à la Russie, l'immensité de son territoire en faisait un pays complètement désemparé. Les Allemands s'obstinaient à retrouver la vitesse caractéristique du XXe siècle. Leurs recherches antérieures les aidaient à cela, car leurs savants s'étaient attachés depuis longtemps à la locomotion par fusée. Il ne s'agissait plus maintenant d'atteindre la Lune ou la planète Mars en astronef, mais de communiquer rapidement avec les pays voisins. Les premiers essais permettaient d'envoyer du courrier et quelques marchandises, mais les fusées atterrissaient avec une telle rudesse qu'un long temps s'écoulerait sans doute avant que des êtres vivants puissent utiliser les véhicules sidéraux. Cela n'empêchait pas quelques anticipateurs de parler d'une émigration en masse dans un autre astre, et le désir de retrouver la lumière du soleil était si impérieux que ces projets ne paraissaient pas insensés. On commençait à faire allusion aux troubles visuels, mais sans généraliser. On n'avait pas encore prévenu les gens de ce qui les attendait. Les Américains avaient lancé un cri de foi. Le salut de l'univers viendra d'un aveugle. Et maintenant, chacun répétait cette formule avec une confiance que rien ne justifiait. Tous les peuples cédaient aux besoins d'une mystique, comme ils l'ont toujours fait depuis la naissance du monde. Et à chaque audition, le même terrible mot revenait sans cesse. La famine, la famine, la famine. On ne parlait même plus de mortalité infantile. Faute de moyens de faire parvenir régulièrement le lait, toute une génération avait disparu. Et les adultes se battaient désespérément contre la faim. Les observateurs ont depuis longtemps établi et prouvé que la famine n'est jamais causée par le manque absolu de vivres, mais par les difficultés de distribution de ces vivres. On meurt, comme dans un désert, à côté d'entrepôts pleins à craquer. Or, jamais distribution de céréales n'avait été plus difficile que dans ces ténèbres inexorables. Il en résultait des catastrophes sans nom, mais on les imaginait sans pouvoir les décrire. La Chine, ce prodigieux réservoir d'hommes, n'était plus qu'un immense charnier. La peste et le choléra en arrivaient avec certitude, et rien ne semblait pouvoir arrêter ces fléaux. Il avait fait de timides apparitions pendant la Grande Guerre. Maintenant, ils affirmaient, comme au Moyen-Âge, leur hideuse puissance dévastatrice. « Il y en a de plus malheureux que nous », répétait obstinément Pierre, quand le découragement gagnait ostensiblement ses compagnons. Ils le savaient, mais cette assurance ne suffisait pas à leur faire oublier la mort qui rôdait autour d'eux et qui finirait par les prendre comme elle prenait chaque jour des centaines de milliers d'autres. Chapitre 16. Comment s'enregistrent des faits nouveaux? L'ennui est un destructeur de vie plus infaillible que l'arme à feu la plus perfectionnée. Le châtiment le plus terrible que les hommes aient inventé, celui qu'on n'applique que pour les crimes inexpiables, c'est la réclusion dans les ténèbres. Et encore, ce châtiment n'est jamais appliqué complètement. On accorde aux condamnés quelques instants de lumière par jour. Sinon, ils perdraient la raison dans un délai très court. Les habitants de la carrière devenaient de plus en plus taciturnes. Pour économiser l'essence et les bougies, il s'imposait des heures et des heures d'obscurité absolue. Dès que la lampe était éteinte, il s'efforçait à causer, à se raconter des choses, à rire. Mais au bout de quelques minutes, invariablement, la conversation s'arrêtait, le silence reprenait ses droits. On n'entendait plus que les soupirs de M. Tubaz, auxquels répondaient en écho ceux de Mme Gorgette. Celui qui supportait le mieux cette existence végétative était Pâtureau, qui, lorsqu'il ne mangeait pas, dormait sans arrêt. Jacques réfléchissait, le front dans ses mains. L'injustice du destin tantôt l'accablait, tantôt l'exaspérait. Son caractère s'aigrissait. De véritables disputes éclataient aux prétextes les plus futiles, et Madame Fargeau elle-même venait de se mettre en colère contre le perroquet, qui se distrayait comme il pouvait en caquetant sur son perchoir. Il ne tenait plus compte du calendrier et vivait dans l'ignorance des dates. À quoi bon se préoccuper de cela? Demain serait en tout point semblable à hier, jusqu'au moment où les vivres manqueraient. Sans en parler jamais, ils pensaient tous à cette échéance redoutable. Ils la retarderaient le plus longtemps possible en se rationnant, mais elle viendrait quand même. Le problème consistait à savoir si, à ce moment-là, ils trouveraient dehors les aliments indispensables. Pierre affirmait qu'il les obtiendrait facilement. Mais les autres ne feignaient même pas de partager sa conviction. Rien ne les tirait de leur abattement, et Jacques entendait parfois Juliette pleurer doucement. Le blessé, tout à fait remis, gardait encore sa foi en l'avenir. Il avait encore le courage de chanter. Et sa bonne humeur, qui les agaçait parfois, leur était quand même d'un précieux réconfort. Mais malgré son énergie, Pierre finirait bien par sombrer dans le désespoir, comme les autres. Et alors ? La lampe était éteinte depuis 2 ou 3 heures. Le silence régnait. Une vague torpeur envahissait Jacques, qui d'ailleurs ne résistait pas. Dormir, c'est oublier. Pierre, qui se trouvait à côté de lui, se pencha pour chuchoter. « On se fait vieux, hein ?»« Oh oui !» se contenta de répondre Jacques. « On s'ennuie, à 1 franc la minute. Moi, qui suis paresseux comme une couleuvre, je n'aurais jamais cru que l'action deviendrait un tel supplice. Si nous sortions un peu, où voulez-vous aller ?» « Je ne sais pas, dans la galerie, n'importe où, histoire de nous dégourdir les jambes. »« À quoi bon ?» fit Jacques, veule au point de haïr le moindre effort. Mais l'autre le secoua amicalement. « Allons d'une aire, sinon nous finirons par nous rouiller tout à fait. Qui sait, nous aurons peut-être bientôt besoin d'être frais et dispos. » Leurs compagnons les entendirent sortir, mais nul ne leur demanda où ils allaient. L'indifférence est une des manifestations caractéristiques du désespoir. « À droite ou à gauche ?» fit Jacques. « Si nous allions jusqu'à la sortie, suggéra Pierre. Si vous voulez, cela me permettra de vérifier la fermeture, ce que je n'ai pas fait depuis longtemps. Oh, elle n'a pas été touchée. Non, puisque la brume n'entre pas. » Ils cheminaient ensemble, côte à côte, avec une telle habitude de l'ombre qu'ils ne trébuchaient presque jamais. Ils avaient cet instinct grâce auquel les aveugles devinent les obstacles. La lampe électrique de Jacques fonctionnait encore, mais la pile s'épuisait. « Je voudrais avoir un travail quelconque, » dit Pierre. « Je ne peux plus supporter cette inertie. »« Je suis comme vous, mais que faire ?» répliqua Jacques. « Des expéditions au dehors ?»« Ce serait inutilement dangereux. Nous trouverions surtout des affamés qui mettraient notre pitié à rude épreuve. » Et s'il parvenait à nous suivre dans la carrière, ce serait désastreux. Les nouvelles de l'extérieur les peinaient tellement qu'ils ne touchaient plus à l'appareil du TSF. D'ailleurs, ils n'entendaient plus que très faiblement, car l'accumulateur était bien bas. Sous peu, cette dernière communication avec le reste du monde serait coupée. Juliette espérait toutefois que le courant électrique finirait par être rétabli, mais ce n'était point une certitude. Jacques, qui déambulait la tête basse, leva machinalement les yeux. Il sentait qu'il était arrivé près de la porte, et un bref éclair de sa lampe lui prouva qu'il ne se trompait point. Le calfeutrage des 2 vantaux était intact. Ils l'examinèrent un instant et Jacques éteignit. « Il ne nous reste qu'à regagner nos pénates, » dit le jeune homme. « La randonnée se termine ici, au bout de notre univers souterrain. »« Oui, » répondit Pierre, « notre promenade n'aura pas été longue. si nous allions maintenant jusqu'à la champignonnière. Il n'y était jamais revenu à cause du cadavre abandonné et qu'il n'avait pas enterré comme celui de Dominique. Si vous voulez, accepta Jacques, nous cueillerons peut-être quelques champignons. Un bruit à la fois familier et oublié les fit tressaillir, mais ils s'imaginèrent tous deux être victimes d'une hallucination. Vous avez entendu, fit toutefois Pierre. Oui, n'est-ce pas un klaxon d'auto? C'est ce qu'il m'a semblé. C'est pourtant invraisemblable. Ils tendirent l'oreille, mais le bruit insolite ne se renouvela pas. Nous nous sommes trompés, dit Pierre. Il n'y a plus d'auto sur les routes, hélas. Il allait faire demi-tour, mais il se figea sur place. Médusé, Pierre devina cette immobilité. Qu'est-ce que vous avez ? Demanda-t-il. Jacques était si ému qu'il se sentait incapable de l'exprimer. Devant lui, au ras du sol, à travers la toile de sac tassée dans la fente, il lui semblait discerner une vague lueur grise. Le jour, râla-t-il, le jour. Où ? S'écria Pierre, croyant que son compagnon devenait subitement fou. Là, à nos pieds. Pierre vit, à son tour, et sans parler davantage, ils se ruèrent sur la porte, arrachant les sacs, faisant sauter les poutrelles de protection, ébranlant les planches à coups furieux. Un ventail céda à l'improviste si brusquement que Pierre roula sur le sol. Et ce fut le miracle. La lumière, la bienfaisante lumière millénaire, les enveloppa, les baigna, les pénétra. Il n'y avait plus trace de brume. Le ciel était de nouveau bleu. Le jour était revenu. Pierre, à genoux, extasié, buvait l'air frais à plein poumon. Il ne savait plus que balbutier. Ça alors, ça, ça. Et Jacques, après une minute de stupeur, s'élança vers la caverne en criant « Le soleil, le soleil, le soleil !» Chapitre 17. Un coup d'œil sur le Nouveau Monde. Madame Gorgette répétait pour la 20e fois peut-être « Quel drôle de pays !» C'était pourtant Meudon, son Meudon, qu'elle contemplait de sa fenêtre. Mais ce qu'elle voyait était si différent de ce qu'elle avait coutume de voir depuis 30 ans que son exclamation se justifiait. Le vert est la couleur principale de notre planète. Lui seul évoque l'idée de vie. Sauf dans les déserts ou sur les océans, on le retrouve partout. Malgré quelques arbustes de nuances rougeâtres, on ne conçoit pas une végétation terrestre qui ne soit pas verte. Or, depuis la disparition de la brume, les arbres et les herbes avaient changé de couleur. Les feuilles étaient blanchâtres et il fallait s'en approcher de très près pour distinguer quelques nervures et quelques taches smaragdines. Seuls les pins, les sapins et les fougères n'avaient pas modifié leur apparence. Et ces exceptions rendaient plus invraisemblable encore l'aspect de la forêt. « Quel drôle de pays !» reprenait la concierge. « Jamais je ne pourrais m'y habituer. » « Mademoiselle Juliette affirme que tout va redevenir bientôt comme avant, » répondit Pâtureau. « Oui, mais tout de même. » Madame Gorgette respectait trop la science de sa locataire pour s'inscrire en faux, mais elle ne pouvait s'empêcher de douter. Pourtant, l'éclipse de la couleur verte était, pour ainsi dire, rationnelle. La chlorophylle existe dans la quasi-totalité des feuilles et des jeunes tiges, et c'est elle qui leur donne leur aspect. La lumière était nécessaire, indispensable à la formation normale de cette chlorophylle. Une plante privée de lumière peut pousser, mais au lieu d'être verte, elle est blanche ou légèrement jaune. Cela est si vrai que les maraîchers utilisent l'obscurité pour faire blanchir leurs salades et leurs céleri. S'ils lient les chicorées, c'est pour que les feuilles centrales ne soient pas frappées par les rayons solaires. Les plantes blanches ne sont d'ailleurs jamais bien vigoureuses. La propriété essentielle de la chlorophylle est d'absorber les rayons lumineux pour transformer leur énergie. Elle n'absorbe d'ailleurs que les radiations bleues et rouges du spectre, permettant au protoplasme d'opérer les réactions chimiques conduisant à l'assimilation de l'aliment. Ainsi se trouve expliqué ce qu'on nomme la respiration des arbres et le dégagement d'oxygène à la lumière. Une plante dépourvue de chlorophylle est destinée à périr, ou alors c'est une plante qui vit sur une autre pour bénéficier de la chlorophylle de cette autre. Tel est le cas des plantes parasites et des plantes saprophytes. Le soleil, maître de la vie, allait bientôt faire oublier les méfaits des ténèbres. Tout faisait prévoir que les savants allaient discuter longtemps sur l'étrange brume. Une opinion prévalait. Un astre mort, un soleil noir, c'est-à-dire invisible, avait passé près de la Terre dans sa course vers l'infini. Il fallait admettre, sans pouvoir l'expliquer scientifiquement, que le mélange des deux atmosphères était la cause de l'obscurité momentanée. Les oiseaux, moins résistants que les autres animaux, avaient presque complètement disparu. Cette disparition ne laissait pas d'être inquiétante, car les insectes, eux, subsistaient toujours. Leur existence larvaire les avait protégés. Il faudrait, plus tard, engager contre eux une lutte sans merci pour sauver la végétation. Mais ce n'était pas imminent et la chimie viendrait alors au secours de la société. Les peuples se ressaisissaient, pansaient leurs blessures, comptaient leurs morts. Il y avait des vides effrayants. Mais la gigantesque hécatombe semblait avoir rétabli dans une certaine mesure l'équilibre économique. L'humanité ne songeait qu'au travail. Les peuples fraternels unissaient leurs forces, les hommes ne se détestaient plus. Mais ce n'était peut-être malheureusement qu'une trêve passagère. Les cloches de la coquette église de Meudon sonnaient à toute volée. La journée était magnifique. Il y avait de l'allégresse dans l'air. On se prenait à guetter le chant des oiseaux dans les frondaisons de la forêt, à chercher la rapide flèche d'une hirondelle dans l'azur du ciel. Mais seul volait dans l'espace le clair tintement des cloches. Il n'y avait pas grand monde dans l'église, mais le vrai bonheur se passe volontiers de publicité. Quelques amis, quelques voisins, ayant survécu au cataclysme, assistait seule à la cérémonie. Juliette, ravissante sous son voile blanc, regagnait la sortie au bras de Jacques. Elle était maintenant sa femme devant Dieu et devant les hommes, et son visage rayonnait de bonheur tranquille. Avec l'appui d'un tel mari, elle pouvait s'engager sans crainte dans la traversée de la vie. La jeune épouse se retourna pour sourire à sa maman, roulée dans sa petite voiture par Patureau. » Le déménageur était aussi ému que la brave dame, et, au seuil du parvis, il s'essuya les yeux du revers de son énorme main. Un grain de poussière, sans doute. Mais il n'y avait pas seulement un couple de mariés, il y en avait deux. Le second, marchant modestement derrière, se composait de Madame Gorgette et de Monsieur Tubaz. La concierge, propriétaire et son locataire, avaient trouvé ce moyen de ne plus discuter les innombrables lois sur les loyers. Ce problème irritant ne se poserait jamais plus pour eux. Monsieur Tubaz, ayant changé de camp, se proposait d'ailleurs d'imposer, à un bref délai, une augmentation générale. Madame Gorgette, ou plutôt Madame Tubaz, aurait peut-être bien quelques petites querelles avec son mari, mais quelques nuages ne font que mieux apprécier la beauté du soleil. Si le chat et le perroquet étaient tranquillement restés à la maison, Goliath avait tenu à assister à la fête. Le bedeau l'avait ignominieusement chassé deux fois, mais le chien avait réussi à se faufiler de nouveau et, tapis sous une chaise, il avait entendu le « oui sacramentel ». Dès que la porte fut ouverte, il s'élança comme une flèche devant le bedeau et, dès qu'il fut hors de danger, se mit à aboyer en gambadant. Une belle auto attendait devant l'église. C'était celle de Pierre Sartoni, qui la pilotait lui-même. Les membres de la colonie, unis par l'amour et l'amitié, étaient ainsi au complet. « Honneur aux époux !» s'écria gaiement Pierre. Il avait rassemblé quelques enfants qui se mirent à crier à tue-tête « Vive la mariée ! Vive la mariée !» Madame Tubaz baissa les yeux en rougissant, tandis que M. Tubaz saluait à la ronde avec la cordialité condescendante d'un chef d'État. Jacques se pencha sur sa délicieuse compagne. « Heureuse ? » demanda-t-il. « Oui, » répondit simplement Juliette. Et Patureau, qui entendait cela, s'essuya de nouveau l'œil. Il y avait décidément beaucoup de poussière. Fin.